exposé de ce matin, le dimanche 22 novembre 1981, nous intitulerions ce message par un seul mot, vivre. Et nous traiterons ce sujet donc dans le cadre de notre traite, la vie chrétienne, un choix quotidien. Comme je vous l'ai annoncé, ce ne sont donc pas les textes que vous avez lus ce matin que je commenterai. Je pense que la parole qui vous a occupé était assez claire pour que les uns et les autres vous puissiez la comprendre. Qu'il s'agisse de Romains 1, versets 16 et 17, vous y entendez le témoignage de l'apôtre Paul qui dit que lui, il n'a en tout cas pas honte de l'Évangile. Moi, je ne sais pas ce qui vous arrivera en sortant d'ici, si vous oserez témoigner que vous aussi, vous n'avez pas honte de cet Évangile qui vous a été exposé dans ce lieu. Je ne sais pas si, comme Paul, vous pourrez dire que cet Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce que vous faites vous-même partie de ces quiconques et que vous avez cru maintenant personnellement et que dans cet Évangile, vous avez découvert la vraie justice de Dieu. Cette justice de Dieu vous est apparue dans toute sa beauté, dans toute sa clarté. Dieu ne vous demande pas de faire votre salut, il vous accorde le salut. À vous des êtres qui sont pécheurs de nature, Dieu vous accorde le salut. Que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous ayez une religion ou que vous veniez de l'athéisme, le salut de Dieu vous a été offert. Sur quel principe? Non pas le principe de bonnes œuvres que Dieu vous réclamerait, mais sur le principe de la foi en son amour, de croire simplement à son amour, cet amour qui lui-même vous conduira à accomplir des bonnes œuvres, non pas par intérêt pour être sauvé, mais parce qu'il vous a sauvé. Et désormais, vivant de foi, c'est cette foi qui vous conduira à un choix quotidien et influençant votre comportement. Dans la deuxième partie de ce que vous avez lu dans l'Épître aux Hébreux, l'Esprit de Dieu vous a recommandé de ne pas perdre courage, de ne pas abandonner votre assurance, cette assurance que vous donne la parole de Dieu. Vous avez été encouragé à persévérer quotidiennement dans cette foi qui nous amène à un choix quotidien. Et enfin, dans la deuxième épître de Pierre, j'espère que vous avez réalisé combien les journées que vous avez vécues ici étaient sérieuses, car à la fin de cet épître, vous avez lu qu'il aurait mieux valu ne pas connaître la vérité, que de l'avoir comprise, cette vérité, et de vous en détourner après. Deux personnes sont venues me trouver ce matin et m'ont dit qu'elles sentaient dans cet auditoire une résistance au message. Et je pense qu'elles ne sont pas les seules qui ont éprouvé cela, qu'il y a parmi vous probablement des personnes enfin qui s'opposent à ce message de la parole de Dieu. Et c'est ce qui amenait justement le Seigneur Jésus a pleuré face à la ville de Jérusalem, et c'est ce qui m'amène peut-être à avoir cette profonde tristesse ce matin en pensant qu'il y a des âmes qui restent fermées aux appels de la grâce. Mais nous voulons demander à Dieu que il puisse briser cette résistance et délier ces âmes qui pourraient se trouver parmi nous et être privées de cette grâce que Dieu voudrait leur offrir. Seigneur, notre Dieu, nous remettons cette heure entre tes mains et nous te demandons de juguler toi-même toutes ces puissances de méchanceté, toutes ces puissances d'erreur qui voudraient retenir captives des âmes que tu voudrais libérer pour leur faire connaître la vraie vie en Christ, qui n'est pas une utopie, mais qui est une réalité. La connaissant, cette réalité, nous voudrions que d'autres puissent la partager, et nous te demandons que la grâce que tu nous as accordée à nous-mêmes, tu l'accordes à tous, pour la gloire de ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes amis, que signifie pour vous le mot « vivre » ? Réfléchissez un instant. Quand cette nuit, Dieu m'a parlé et m'a montré que je devais traiter ce sujet, je me suis souvenu que j'avais fait en effet une conférence en 1956 devant un public très disparate dans une ville très mondaine, la ville de Nice, en France. Et j'ai été étonné que Dieu me demande de reprendre ce thème, vivre dans un tel lieu ici où, au fond, ceux qui sont rassemblés peuvent à première vue paraître des croyants. Or, à Nice, j'avais devant moi un auditoire essentiellement composé d'incroyants, mais qui venaient dans cette salle de théâtre parce que, à cette heure-là, ils étaient un peu désœuvrés dans une ville touristique et ils avaient vu les affiches annonçant cette conférence vivre. J'étais donc étonné cette nuit quand le Seigneur m'a dit « Tu dois leur parler de ce que c'est que vivre avant qu'ils ne s'en aillent. » Étonné, oui, mais je ne suis pas non plus surpris, car je sais que Dieu a une pensée et je n'ai pas l'habitude de me soustraire à ses ordres. Je dis ceci pour que vous puissiez bien comprendre que personne ne sera visé ici. Car cette conférence, je l'ai faite en 1956. J'en reprends les éléments essentiels, mais donc, cette conférence ne vous était pas destinée. De sorte que si ce matin, l'un ou l'autre se sent concerné, qu'il soit absolument certain que ce n'est pas parce qu'on est venu me faire des rapports sur lui ou sur elle que je dis ces choses. Pris dans un sens ou dans un autre, vivre, on peut bien le dire, c'est encore le mot du jour. Vivre n'est pas seulement une obligation qui est imposée par la nature à tous les êtres, mais c'est aussi l'aspiration légitime de tous les hommes, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Et si parfois, comme vous le savez bien, l'existence est amère, et si quelques-uns, dans des moments de découragement, soupirent après ce qu'ils appellent le grand repos, il n'en est pas moins vrai que l'être humain aime la vie et désire retirer le plus possible de ce capital incomparable, car on ne vit qu'une fois. Aussi, je pense que dès longtemps, sans doute, vous avez suivi inconsciemment les paroles de Coëlette, c'est-à-dire de l'Ecclésiaste, qui dit dans son livre que vous trouvez dans la Bible, « Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et les désirs de tes yeux. » C'est une citation qui est magnifique, mais hélas, incomplète. Et nous craignons que plusieurs n'aient oublié le petit mot qui suit cette citation. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Vous connaissez cela, hein? Tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu es libre. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Alors vous me direz, bien, n'assombrissez pas notre vie en nous parlant aujourd'hui de la mort et du jugement. Pour l'instant, nous qui sommes ici, nous avons le désir de vivre. Et il sera toujours assez tôt de nous préparer à mourir et de nous parer en vue de ce jour du jugement. Bien, je vous l'assure, mes amis, c'est une théorie dangereuse et inefficace. Car, pour vivre pleinement, je voudrais que vous en soyez convaincus, pour vivre pleinement, il faudrait non seulement ne pas songer à la mort, mais vivre sans penser à la vie, ni à soi-même. J'aime beaucoup une citation d'un historien français qui s'appelait Brujan et qui a dit « Qui s'écoute vivre entend venir la mort. » Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous écoutez vivre? Qui s'écoute vivre entend venir la mort. Alors ne vous écoutez pas vivre. Parce que si vous vous écoutez vivre, vous entendrez venir la mort. Alors je vous demande de vous arrêter quelques instants pour réfléchir sur ce que signifie vivre. Qu'est-ce que vivre? Pour les uns, vous le savez, vivre, c'est peiner, c'est lutter, c'est travailler, c'est souffrir. Pour les autres, vivre, c'est manger, c'est boire, c'est s'amuser, faire l'amour, c'est dormir. Ne rien refuser au désir de son cœur, ni au regard de ses yeux, ni aux appétits de la chair. Vivre, c'est être sans maître, libre de faire tout ce que l'on veut. Mais ceux qui raisonnent ainsi sont tellement aveuglés qu'ils croient commencer à vivre quand ils se jettent tête baissée dans ce que la Bible appelle le péché. Pour une certaine jeunesse, vivre, eh bien, c'est être émancipé du pouvoir paternel et maternel, c'est pouvoir prendre sa chambre en dehors de la maison familiale, c'est pouvoir assister à tous les films qui se montrent dans les salles obscures, c'est pouvoir passer ses soirées à s'abrutir à la musique des discothèques. Voilà, vivre au fond, c'est entrer dans le monde, en retirer le plus possible avant de le quitter, car vous le savez bien, il faudra le quitter. Mais il n'y a pas que des matérialistes et des grands jouisseurs dans le monde. Il est des êtres pour lesquels vivre, c'est avoir et poursuivre un idéal. Un idéal qui peut être scientifique, qui peut être philosophique, qui peut être artistique, qui peut être moral aussi, ou religieux. Mais hélas, pour eux aussi, la mort sera une perte, car si l'on ne danse plus dans le tombeau, et vous vous imaginez bien qu'on ne danse plus dans le tombeau, hein, la mort met aussi fin à nos recherches, à nos talents, à nos sentiments. Et là, je pense à un mot célèbre de Voltaire qui disait « La plupart des hommes meurent sans avoir vécu. » Et Bossuet disait « Il y a des gens qui commencent à vivre lorsqu'ils vont cesser de vivre. » Ou plutôt, qui ont cessé de vivre avant de commencer. Ça, c'est Bossuet qui disait ça. Pour d'autres, enfin, et je suis heureux d'arriver à ce point, vivre, c'est tout autre chose. Écoutez bien. Ils affirment n'avoir pas commencé à vivre réellement à leur naissance, ni à l'âge où l'on entre dans le monde, mais depuis qu'ils ont rencontré personnellement Jésus-Christ. Et ils appellent cette rencontre, comment ? La conversion. Qui n'a pas été pour eux un simple changement de religion, mais un changement de vie, un changement de direction, un changement d'orientation. Et dès cet instant, Jésus-Christ est devenu leur vie. Jésus-Christ est devenu leur but. De telle manière qu'avec saint Paul, ils peuvent dire, vivre pour moi, c'est le Christ. Vivre pour moi, c'est Christ. Ou, selon une autre version, Christ est ma vie. Et nul n'ignore aujourd'hui, dans nos pays, que c'est vraiment Jésus-Christ qui a donné son nom à notre monde moderne. Mais combien parmi les baptisés sont ceux qui ont rencontré celui qui pouvait dire « Je suis la vie ». Est-ce que vous l'avez rencontré, vous, qui êtes ici, ce matin, dimanche 22 novembre, pouvez-vous dire « Oui, j'ai rencontré ce Jésus qui disait « Je suis la vie ». Bien, ce que je vous dis ce matin, c'est que Jésus vous offre encore cette vie. Il l'offre à quiconque croit, vous l'avez lu dans les Romains. Mais cette vie qui n'est guère manifestée dans le monde, est-ce que vous en voulez vous-même? Pourquoi vous en priveriez-vous? Parce que vous avez peut-être encore cette prétention de vivre hors du plan de Dieu, sans connaître ce plan que Dieu a pour vous, sans accepter le don de Dieu, parce que vous pensez que vous pouvez vous-même arriver à vivre une vie qui vous satisfera pleinement. Je veux vivre ma vie. Voilà ce qu'on entend sans cesse quand on côtoie les jeunes et les moins jeunes. Et ce slogan, je veux vivre ma vie, illustre vraiment la volonté arrêtée qu'ont les hommes d'être les maîtres absolus de leur destinée. Ce slogan montre aussi à quel point on se soucie peu de Dieu dans ce monde. Alors que le Créateur devrait être au centre de tout, alors qu'il devrait occuper la première place dans notre existence, qu'est-ce que vous constatez? C'est l'homme qui est au centre, et c'est la créature seule qui compte. Et cependant, cet être qui se croit si important, si fort, manifeste de mille manières qu'il est totalement incapable de faire autre chose que de subir le temps et les circonstances et de suivre le courant de ses passions et la folie de ce siècle. Si on lui fait la remarque, eh bien, il s'excuse en disant qu'il ne peut pas faire autrement, et quand vient la mort, il découvre avec la majorité des hommes qu'il n'a pas vécu et qu'il voudrait pouvoir recommencer. J'ai assisté dans ma vie bien des mourants, et je vous promets, j'en ai entendu plusieurs qui disaient, si je pouvais recommencer, je vivrais autrement. Ça veut dire que l'homme a abandonné Dieu, qu'il lui a tourné le dos. Est-ce que vous voyez les hommes que vous côtoyez, vous, et que vous connaissez, avec lesquels vous êtes en relation? Dites-moi un peu, est-ce que vous les voyez suivre Dieu dans vos villes, dans vos villages? Vous en connaissez beaucoup qui suivent vraiment Dieu, qui se soucient de ce qu'il a dit? Je dirais que même où l'Église, quelle que soit l'Église, est restée puissante, là où l'Église est restée puissante, on sent que le matérialisme règne dans les âmes, que ce soit en Amérique où l'on vend encore à l'Église, ou que ce soit ailleurs, où l'Église a encore un certain pouvoir, eh bien, on se rend compte que le matérialisme règne dans les âmes, et ce qui est tragique, c'est que ce matérialisme semble bien être incurable, puisqu'il se nourrit et se satisfait de ce que j'appellerais une caricature de la piété. Il y avait en Bretagne, il y a quelques années, un jeune prêtre très fervent et pathétique, qui dans une messe d'enterrement croyait dénoncer la cause de ce manque d'intérêt pour les choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci, pourquoi est-ce que le monde est angoissé? Pourquoi ce monde reste-t-il loin de Dieu? Et il ajoutait, c'est parce qu'il ne vient plus à la messe, c'est parce qu'il ne vient plus aux offices, c'est parce qu'il oublie le catéchisme. Mais il ne disait pas, c'est parce qu'il ne connaît pas la croix du Christ. Il ne disait pas, c'est parce qu'il ne connaît pas la prière personnelle, parce qu'on lui a trop peu parlé du repentir et de la joie ineffable du pardon, de la puissance du Saint-Esprit pour marcher chaque jour avec Dieu à la rencontre du Christ. Pas plus tard que hier, quelqu'un me disait avoir voulu rencontrer un prêtre et lui avoir demandé de prier avec d'autres personnes. Et ce prêtre a refusé en disant qu'il n'avait pas son livre de prière. Donc, il n'est plus question de pouvoir faire une prière spontanée. Voyez-vous, ne vous y trompez pas. Si même on pouvait voir les foules fréquenter les offices, accomplir quotidiennement, hebdomadairement ou annuellement certains rites et devoirs religieux, tout cela ne signifierait pas que les hommes aiment Dieu et qu'ils le suivent. Car suivre Dieu, c'est renoncer à soi pour vivre en l'aimant. Et l'aimer sur la terre, c'est mettre en pratique son grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, il n'est pas question ici d'opposer une doctrine à une autre, ou de mettre en valeur une religion au détriment d'une autre, mais d'aider les âmes préoccupées par les questions spirituelles à discerner où se trouve le chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Car je reste persuadé, malgré certaines apparences, qu'il y a encore dans ce monde des âmes qui cherchent et qui reconnaissent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Renoncer à soi-même n'est pas le slogan d'une secte, mais la grande parole de Jésus-Christ, le message universel de l'Évangile. Et notre ambition sainte est de vous faire aimer Jésus-Christ en vous apprenant à connaître tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il donne aujourd'hui. Or, celui qui aime Jésus-Christ, vous le savez, il aime aussi ses frères, et quand l'amour pour Dieu remplit son cœur, la vie d'un homme est vraiment transformée. Est-ce que c'est ce que vous avez expérimenté? Quand je réfléchis un peu, je me dis non, les hommes ne suivent pas Dieu et ne le prennent pas au sérieux. Et ce qui m'angoisse ici, c'est de penser qu'il y a peut-être plusieurs parmi vous qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Je vous le dis avec toute l'affection de mon cœur. Je ne parle pas ici donc des athées, de tous ceux qui sont assez insensés pour nier l'existence d'un créateur, d'un être personnel qui se révèle à la conscience et au cœur. Je pense davantage à tous ceux qui affirment avoir une croyance, mais qui n'ont pas la foi, à tous ceux qui croient en Dieu, mais qui ne se soucient pas de ses lois et vivent comme s'il n'existait pas. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Je songe à cette multitude de gens baptisés qui portent le nom de chrétiens, qui connaissent les paroles de Jésus-Christ, le sermon sur la montagne, et qui ne le vivent pas. Vous avez peut-être conservé une forme de piété, mais est-ce que nous en avons accepté la puissance? Est-ce que nous n'en avons pas renié ce qui en fait la puissance, la force? Il y a une foule de gens qui sont baptisés et qui marchent de reniement en reniement, ne distinguant plus le bien du mal. Elles croient même pouvoir adapter Jésus à notre temps. Et certaines d'entre elles iraient jusqu'à voir Jésus présider une nuit existentialiste, ou, pour se détendre de ses tâches spirituelles, on le verrait tout à fait, ce Jésus, passer sa nuit dans une discothèque, dans une boîte de nuit. Pourquoi pas? Je ne crois pas que j'exagère. Et je ne fais qu'effleurer les bords de cet abîme de corruption, de mensonge, d'impureté, d'injustice, d'orgueil, d'égoïsme, de violence, dans lequel tournent en rond une multitude d'hommes et de femmes baptisés et qui, de temps à autre, récitent un pater, égrènent un chapelet ou écoutent un sermon. On croit en Dieu, mais on ne se soucie pas de lui ni de ses paroles. On joue avec ce qui est appelé dans la Bible le péché, on s'y livre, on en fait même ses délices, oubliant qu'on ne se moque pas de Dieu impunément, car, croyez-le, ce qu'on sème, tôt ou tard, on le récoltera. Constatez vous-même, Dieu a parlé, et l'homme viole ses lois. L'homme reconnaît son Créateur, mais veut vivre d'une façon indépendante. il veut être libre, il n'accepte aucun joug, il se croit libre, et pourtant, s'il s'arrête pour réfléchir, il lui faut reconnaître bien vite qu'il vit dans l'illusion et qu'il est par ses sens l'esclave de ses convoitises. Alors mes amis, avant de vous démontrer ce que je viens de souligner, je me permettrai de vous poser quelques sérieuses questions. Êtes-vous libre? C'est à vous que je parle. Qui que vous soyez, êtes-vous libre? Avez-vous la possibilité de faire autre chose que ce que tout le monde pratique? Pouvez-vous faire autrement que le commun des mortels? Pouvez-vous penser autrement que le commun des mortels? Pouvez-vous obéir à une volonté contraire à vos intérêts personnels? Avez-vous la force de suivre un désir qui est opposé à celui de vos sens? J'ai à répondre pour moi-même, moi. Parce que si je vous prêche, je prêche avec une épée qui a deux tranchants. S'il y a un tranchant pour vous qui doit vous atteindre, l'autre tranchant m'atteint. Alors, écoutons maintenant un peu ce qui se dit parmi ceux qui connaissent la loi de Dieu. On dit ceci. Je sais bien que Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, hein. Vous le savez, ça. Un seul Dieu tu adoreras. Je n'ignore pas que ma vie devrait lui être consacrée, mais si mon cœur me pousse à aimer la créature plus que le créateur, à faire de l'argent mon idole, du sport ou des arts ma passion, qu'importe, je veux vivre ma vie. Et c'est ainsi qu'à l'instar des Israélites, on sacrifie à des idoles qui ne sont pas Dieu. Allez un peu dans les chambres des jeunes, vous y verrez leurs idoles. Qui tapissent les murs de leur chambre à coucher. Ces dieux nouveaux, venus depuis peu, dont parlait Moïse déjà en son temps. On entend aussi ceci, je sais bien que le deuxième commandement déclare, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. On sait cela, c'est le deuxième commandement. Mais s'il me plaît d'adorer un peu mon œuvre, le petit Dieu que mon talent, mes recherches, mon travail, mon permis de créer, qu'importe, je veux vivre ma vie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, une multitude se prosterne devant leurs œuvres et celles de leurs semblables, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de gens qui s'adorent eux-mêmes et qui ont le culte de la créature. Elles ne sont pas païennes. Savez-vous ce qu'elles sont? Idolâtres. Je sais bien qu'il est écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais si le mensonge sert mes intérêts, s'il m'est utile, qu'importe. J'ai entendu cela combien de fois, même de la bouche de chrétiens qui me paraissaient pourtant pieux. Les affaires sont les affaires. Et les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Faut pas mélanger ça. Je veux vivre ma vie. Et c'est pourquoi le mensonge est devenu monnaie courante. On ne peut plus s'en passer. Et beaucoup mentent aujourd'hui comme ils respirent. Une seule chose compte, réussir. Et pour ce but, tous les moyens sont bons. Elle en s'étonne encore que dans cette atmosphère empoisonnée, la confiance n'existe plus et que les relations entre les peuples, les familles et les époux sont impossibles. J'entends aussi ces gens qui nous disent, mais je sais bien qu'il est écrit, tu ne déroberas point. Mais si pour satisfaire mes ambitions, pour prospérer et m'enrichir, je dois faire du tort à mon prochain, qu'importe. Je veux vivre ma vie. Je ne parle pas même de ceux qui dérobent pour manger, ni des bandits de grand chemin, ni des gangsters modernes qui finissent en prison. Je pense à tous ceux qui sont en liberté et qui, prétextant par exemple que l'État est un voleur, le premier des voleurs, s'autorisent à frauder et à mener leurs affaires et à s'enrichir en trompant et en dépouillant les autres. Je connais aussi, dira quelqu'un, le sixième commandement qui dit « Tu ne tueras point. » Mais si un homme ou une femme font obstacle à la réalisation de mes projets ou en savent trop sur mon compte, pourquoi ne le supprimerais-je pas? Car avant tout, je veux vivre ma vie. Et c'est pourquoi les colonnes des journaux nous racontent chaque jour ces crimes les plus horribles et les meurtres les plus odieux. Je sais également qu'il est écrit « Tu ne commettras point d'adultère ». Vous savez qu'il est écrit ça? Tout le monde le sait. « Tu ne commettras point d'adultère », c'est écrit. Mais si la femme de mon prochain me plaît, si elle s'offre à moi, qu'importe, est-ce que moi je n'ai pas droit au plaisir? Je veux vivre ma vie. Et c'est en effet un poison subtil que celui qu'offre la chair. Son charme, croyez-le, est redoutable et en séduit plusieurs. La pensée des suites terribles du péché, s'il vient à être découvert, ne suffit pas pour nous garder. C'est en marchant avec Dieu, c'est en s'attachant et en regardant à lui comme si l'on voyait de nos yeux le Seigneur, qu'à l'heure de la tentation, on peut écarter de son imagination ces prestiges qui troublent l'esprit et qui paralysent la conscience. On comprend que pécher, ce ne serait pas seulement se dégrader soi-même, trahir la confiance de son prochain, mais surtout outrager le Dieu vivant. Et qu'ils sont rares ceux qui aujourd'hui, dans le monde, sont semblables à ce Joseph dont je vous parlais hier, qui résiste à la tentation et qui s'écrie à l'heure redoutable. Qu'est-ce qu'il a dit Joseph ? Comment ferais-je un si grand mal devant Dieu? Comment pécherais-je contre Dieu? Je n'ignore pas non plus que c'est un mal de ne pas vouloir d'enfants dans le mariage. Les enfants, mais enfin, si j'estime qu'un enfant au foyer est un gêneur, qu'importe. Je m'arrangerai pour ne pas en avoir, ou pour le supprimer avant sa naissance. L'avortement n'est pas fait pour les chiens. Alors pourquoi, puisqu'on m'y autorise, je ne le ferai pas? Je veux vivre ma vie. Et c'est ainsi que jusque dans les alcôves, des gens très bien ont du sang sur les mains. Quoiqu'ils soient prêts à pleurer sur la mort de leur petit chien. C'est vrai ou c'est faux? Et dites-vous que Dieu voit cela, il a parlé, c'est lui qui a donné ses lois. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alors que nous nous réclamons tous de Jésus-Christ, nous sommes en train de violer ses lois. Quelqu'un disait hier, mais vous ne pensez pas qu'on est dans un temps comme le temps de Sodome et de Gomorre? Mais oui, prenez conscience que nous en sommes arrivés là. Alors qu'est-il arrivé au temps de Sodome et de Gomorre? Le feu du ciel est descendu et a consumé ces villes impies. Puis maintenant on dira, ben je sais que le mariage est indissoluble, j'ai dit oui à la mairie, j'ai dit oui même à l'église, deux oui dont le premier suffisait pour me lier, aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Mais si j'en ai assez de la vie avec mon conjoint, si une autre rencontre m'a permis d'espérer un plus grand bonheur, pourquoi resterais-je lié par une parole, alors que le divorce m'offre la possibilité de rompre mon union? Pourquoi me sacrifier pour des enfants qui ont la vie devant eux? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas moi aussi le droit de vivre ma vie? Quand vous venez toujours me dire, oui, et les enfants, vous ne pensez pas que vos enfants seront malheureux? Les enfants, ils se débrouilleront. Je veux vivre ma vie. Et mes amis, je pourrais continuer ainsi, mais ça suffit. Ce qui se passe dans le monde, regardez un peu les thèmes des films, des romans, des chansons, de ce que vous voyez dans les librairies, toutes ces revues prouvent abondamment, sans qu'on ait besoin d'y regarder de plus près, que l'homme est en état de révolte ouverte contre Dieu. La devise des martyrs, qui était mourir plutôt que de pécher sciemment, elle est peu connue et elle a peu de succès. Je sais que beaucoup n'ont pas conscience de cet état de choses. On a tellement l'habitude de voir et d'entendre des choses contraires à la morale et à la nature qu'on ne peut plus discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et cependant, il y a des hommes en dehors des croyants qui sont restés lucides et qui déclarent simplement, comme le faisait Albert Camus, décédé, l'existentialiste athée, et qui disait, lui, c'est justement cette révolte qui donne à l'homme sa grandeur. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui donne à l'homme sa grandeur, disait Camus, c'est qu'il soit révolté contre Dieu. Au fond, c'est qu'il devienne lui-même Dieu. Il faut vraiment se croire grand et fort pour oser s'opposer à Dieu. Bien, cette opposition que vous voyez aujourd'hui à Dieu, c'est l'annonce de l'apostasie. C'est le signe de la fin d'un âge, d'une civilisation qui est mûre pour le jugement et pour la destruction. Mes amis, il n'est pas question pour moi d'être pessimiste ou optimiste. Mais il est question que nous abandonnions nos illusions et que nous essayions de voir les choses telles qu'elles sont. Je voudrais qu'avant de terminer, vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. J'ai jamais eu cette pensée. Mais je vous demande d'être d'accord avec votre conscience et avec Dieu. La vie que Dieu voulait pour sa créature était une vie de liberté, une vie d'amour sous le regard
paternel du Créateur. L'attitude actuelle de l'homme vis-à-vis de Dieu prouve abondamment que cette relation a été rompue. Alors que l'approche de Dieu devrait remplir le cœur des hommes de respect, de joie, d'adoration, elle leur inspire la crainte servile ou la moquerie. Cette confiance filiale a disparu. Rien ne les attire plus vers Dieu, ils ne veulent plus avoir affaire à lui, ils fuient sa présence, ils désirent être aussi loin de lui que possible. J'ai vu une affiche « Dieu, pourquoi faire ?» Alors dans cet état, l'homme se croit libre, est capable de choisir aussi bien le bien que le mal, mais l'acte qui dès longtemps lui a ravi son innocence, l'acte qui a dépravé son cœur tout entier, elle a profondément séparé de la source de toute puissance, eh bien c'est le péché. La corruption a envahi son cœur, et une fois le mal commis, l'homme n'est plus son propre maître. Il ne peut supprimer les conséquences de son action, et elle se révèle dans son état moral. Son cœur devient de plus en plus étranger à la vie de Dieu. Et il expérimente la vérité de la parole de Jésus, quiconque fait le péché est esclave du péché. Depuis la chute, l'homme n'est donc plus réellement libre. Et sans une intervention de la grâce de Dieu, sans la rédemption, apporté par Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, chacun est esclave, et vous l'avez lu, de ce qui a triomphé de lui. Il peut paraître au premier abord que l'homme tombé n'éprouve pour Dieu que de l'indifférence, mais dès que Dieu, le souverain juge, s'approche et lui rappelle sa parole, il devient évident que l'affection de la chair est, comme dit l'Écriture, inimitié contre Dieu. Non content de vouloir expliquer sa fuite, l'homme veut avoir raison dans son péché même. Mais je vous le souligne, être contre Dieu, c'est être contre qui? Finissez ma phrase. Être contre Dieu, c'est être contre soi-même. Si vous aviez compris seulement cela de ce matin. Être contre Dieu, c'est être contre soi-même. Et c'est ainsi que l'homme, esclave de son orgueil, va à la ruine. Que le fumeur, l'alcoolique, le drogué, le voluptueux, les esclaves du tabac, de l'alcool, de la drogue, des sens, se créent eux-mêmes des mots sans nom, donc un jour, dans leur folie, ils accuseront Dieu d'être l'auteur. Voltaire, que j'ai déjà cité, a écrit cette parole, « La plupart des hommes vivent comme des fous. » La plupart des hommes, et c'est Voltaire qui disait ça, la plupart des hommes vivent comme des fous. Ils se détruisent eux-mêmes. Alors pourquoi refuser plus longtemps d'expérimenter ce que Jésus-Christ disait à ceux qui avaient cru en lui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi chercher toujours de vaines excuses pour nous justifier nous-mêmes et tenter de voiler notre faute? Est-ce qu'il n'est pas plus loyal et surtout plus salutaire de confesser notre péché, d'avouer notre impuissance en face de celui qui nous promet généreusement le pardon et la délivrance? je voudrais que ce soit là la note suprême de cette matinée. Dieu vous accorde, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, si vous le lui confessez, Dieu vous accorde son pardon total et la promesse de sa délivrance, de vous conduire, de vous aider. Si donc, disait Jésus, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, car il ajoutait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'attendez pas plus longtemps, admettez que c'est vrai, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Certes, loin de Jésus, on peut avoir l'impression de vivre et de faire beaucoup de choses. Mais mes amis, quand vient l'heure de franchir le seuil du monde invisible et de l'éternité, on s'aperçoit soudain de la vanité de notre vie et des choses de ce monde. Fumée des fumées, dit Chouraki dans sa traduction. Cet homme juif de Jérusalem qui a traduit la Bible. Fumée des fumées, tout est fumée. Alors faudra-t-il que la mort nous terrasse, nous dépouille, avant que nous ayons pu apprendre à vivre et à revêtir Jésus-Christ? Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, dit saint Paul. Et ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur sont les seuls à vivre vraiment leur vie. L'apôtre Paul disait, au fond de sa prison, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir représente un gain, car être auprès du Christ, c'est encore de beaucoup la meilleure part. Étant pour lui, l'heure fut venue de mourir pour son maître à Rome, quelles ont été ses dernières paroles? Si je pouvais recommencer? Non. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, voici que m'est préparée la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alors, mes amis, croyez-le, vous dont chaque instant de la vie est un pas vers la mort, sans Christ, vous n'aurez pas vécu. Et au moment de tout quitter, si ce n'est pas avant déjà, vous aurez cette fameuse nausée dont a parlé l'écrivain Jean-Paul Sartre. Vous connaissez cette nausée? Alors maintenant, il nous reste un instant. Ne voulons-nous pas faire le point? Le point dans notre vie, en nous posant ces simples questions. Quelle place Dieu occupe-t-il aujourd'hui dans ma vie? Franchement, je vais me la poser à moi. Quelle place Dieu occupe-t-il aujourd'hui dans ma vie? Et je vous en pose une deuxième. Pour quelle chose Dieu m'amènerait-il en jugement s'il devait mourir ce soir? Je vous ai rappelé la loi de Dieu. Pour quelle chose Dieu m'amènerait-il en jugement s'il devait mourir ce soir? Si vous comprenez soudain que quelque chose ne va pas entre vous et Dieu, si vous admettez que tout n'est pas en ordre dans votre vie et qu'il faut que ça change, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, agir. N'essayez pas de vous changer vous-même. Mais dites bien, je viens à toi. Allez, agir. Appelez-le simplement. Mais prenez ce moment où vous dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Vous l'avez lu ce matin. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous n'avez rien d'autre à faire, mais invoquez-le dans votre détresse. Appelez-le. Demandez-lui de vous révéler ce qu'il est et confessez-lui vos fautes et vos péchés. Il vous dira, mais je suis mort pour tes fautes et pour tes péchés. J'ai payé la dette. Alors lisez, écoutez, croyez sa parole et vous ne tarderez pas à connaître sa grâce et son grand amour. Face au péché, vous aurez sa délivrance. Face à la souffrance, vous aurez sa joie. Face à la mort, vous aurez la paix. Face à la vie, vous aurez un ami, un modèle et un but. Jésus-Christ. Il n'y a pas sous le ciel, disait l'apôtre Saint-Pierre, d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Le recevoir et l'aimer, oui, c'est cela, vivre et s'épanouir de cette part, soit la vôtre, qu'elle soit la mienne, et que nous puissions nous souvenir de cette parole de Saint Jean de la Croix qui disait « À la fin de notre vie, nous serons tous examinés sur l'âme. As-tu aimé ?» Qui nous pose cette question, ô Dieu. Quelle place me donnes-tu dans ta vie aujourd'hui? Nous puissions te dire, Seigneur, viens et occupe la première place. Je viens le maître de ma pensée, maîtrise-la. Mets une garde à mes lèvres afin que mes paroles soit des paroles qui t'honorent. Donne-moi ta force pour marcher dans un chemin de vérité, dans un chemin de justice, dans un chemin de grâce et d'amour. Père, nous reconnaissons devant toi que nous avons péché et que nous ne t'avons pas aimé. Mais nous voulons nous ressaisir, car tu nous dis que c'est encore le temps favorable, que c'est aujourd'hui un jour de salut. Nous nous humilions d'avoir perdu tant d'années, peut-être, mais nous voulons croire à ta miséricorde, toi qui nous dis que tu peux nous redonner, même les années perdues. Viens dans nos vies, fais-les fleurir à ta gloire, et que pour le temps qu'il nous reste à vivre, nous puissions porter du fruit pour toi, être tes témoins, jusqu'à ce que tu viennes. Amen.